Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien parce que je suis contente aujourd'hui d'accueillir mes deux invités de la journée. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Marc-André Laurier-Thibault. Vous allez voir, c'est un homme qui est très impliqué au niveau de l'accessibilité au travail pour les personnes qui vivent avec une différence. Et on reçoit Karine Martin qui va nous en apprendre sur la maladie de l'ataxie de Fred Reich, une maladie qui est très rare. Alors si vous êtes curieux d'en apprendre plus, eh bien restez avec nous. C'est tout de suite à Les Passions de Camille. Alors, je reçois maintenant mon premier invité, Marc-André Laurier-Thibault. Bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais très bien.
Oui? Magnifique, ça commence bien. Alors, Marc-André, tu habites à Mirabel?
Oui, exactement.
Tu as 38 ans?
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous parler de... parce que, bon, évidemment, on va parler de ton métier, mais j'aimerais avant tout que tu me parles de ton handicap parce que tout est lié.
Oui, ben en fait, j'ai une paralysie cérébrale spastique de naissance. C'est ce qui fait que j'ai un mouvement qui est saccadé. J'ai un peu plus de difficulté à me déplacer, bien que je fonctionne puis que je marche et tout ça. Okay. Donc, c'est un peu ce qui caractérise là, mon handicap.
Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer nécessairement en fauteuil roulant dans ton quotidien?
Non, j'utilise pas du tout le fauteuil roulant dans mon quotidien. En fait, le seul truc que je vais utiliser, j'ai un genre de scooter électrique que j'utilise l'été pour l'extérieur. Ça me permet de faire des plus longues distances plus rapidement.
Mm-hmm. Oui, j'imagine. Et ça, donc, tu as cette condition-là à ta naissance? Depuis ta naissance?
Oui. Ça semble être un manque. Ben, c'est caractérisé par un manque d'oxygène au cerveau. Puis, en fait, c'est ça.
Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique ou c'est un petit peu le hasard
non,
de la vie?
C'est pas du tout génétique.
Okay.
Ils disaient souvent que j'avais une chance sur 1 million de tomber comme ça. Ben c'est à peu près ça. C'est pas du tout relié à la génétique. Donc, c'est vraiment, j'ai manqué d'oxygène à la naissance ou au moment où j'étais dans le ventre de ma mère. Puis d'ailleurs, quand je suis né, ils n'ont pas su tout de suite que j'avais d'handicap parce que j'avais pas de condition qui l'indiquait. Ils l'ont su vers peut-être l'âge de 1 an. Là, quand je commençais à vouloir me déplacer, tout ça, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond.
Et comment ça s'est passé, justement, dans ton enfance? Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Oui, en fait, j'ai un frère plus vieux de 2 ans, puis j'ai une sœur plus jeune de 3 ans.
OK.
Qui n'ont pas d'handicap, soit dit en passant, qui sont parfaitement normales, en guillemets.
Oui, puis c'est intéressant de parce que la façon, naturellement, on va dire, ils sont normaux, mais ça suggère, en fait, de dire qu'on est anormal en disant ça, mais on se comprend
oui.
Très bien que, bon, on parle d'un handicap, oui, mais on est une personne avant d'être un handicap.
C'est vrai. Bien que l'handicap caractérise la personne que tu es, que tu deviens. Tu peux pas faire autrement. T'es lié avec ça, surtout quand tu nais avec ça de naissance. Ça fait partie de toi, puis c'est un élément qui est là. Donc, il suffit de s'en servir à bon escient.
Oui, je suis bien d'accord. Donc, dans ton cas, ça a été, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais quand même facile d'accepter ta condition et ta différence.
Est-ce que c'est facile? C'est une bonne question.
Mm.
C'est quelque chose qui demande un travail quotidien, mais disons que j'ai tourné à mon avantage, on peut le dire comme ça.
Mais c'est la meilleure chose à faire.
Je pense que oui, c'est la meilleure chose à faire.
Et dans ton métier, c'est pas pour rien si tu milites, mais tu es à 110% impliqué, tu veux défendre l'accessibilité au travail pour les personnes qui vivent avec un handicap, une différence. Est-ce que tu peux me parler de ton emploi actuel et de ton parcours professionnel?
Ben, en fait, j'ai mon parcours professionnel, j'ai beaucoup défendu. J'ai travaillé pour Savoura pendant environ 2 ans. Donc, dans ce cadre-là, ça faisait partie d'un de mes mandats de défendre ce dossier-là, mais également, j'étais responsable de l'embauche de personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise.
Okay.
Puis, pour moi, c'était quelque chose qui me paraissait essentiel, parce que j'avais fait le même combat pour me trouver un emploi, et puis j'avais exposé finalement au niveau médiatique les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on a un handicap, bien que j'ai un baccalauréat et tout ça, donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de discrimination, c'est pas vrai que c'est pas plus difficile, d'ailleurs il y a des études qui le prouvent, les statistiques qui le démontrent, c'est pas moi qui le dis,
oui.
Ce sont des études très sérieuses qui le démontrent. Donc, j'ai voulu mettre ça de l'avant parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes au Québec qui sont aptes à travailler, qui ne travaillent pas présentement, puis ça représente un défi, surtout dans le contexte qu'on vit actuellement.
En plus, oui, ça rajoute un obstacle, parce que tu dis que tu as un baccalauréat, tu as étudié en communication et en relations humaines à l'UQAM.
En fait, j'ai étudié en communication il y a quelques années à l'UQAM, mais j'ai refait un baccalauréat à l'Université de Montréal puis au HEC Montréal.
Oui, quand même. Donc, tu es allé loin, quoi. Tu avais la motivation pour.
J'avais la motivation, puis je trouvais ça important de me donner les meilleurs outils à ma disposition pour pouvoir travailler puis vivre convenablement. Puis je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Les études ont toujours été valorisées dans ma famille.
Mm-hmm.
Je pense que c'est important. On dit souvent que c'est important de poursuivre son parcours scolaire, d'aller au maximum de nos capacités, puis minimalement d'aller chercher un métier, une formation. Fait que c'est ce que j'ai fait un peu plus tard que je l'aurais souhaité, mais disons que je l'avais fait en 2006, retourné, j'ai finalement terminé. Mais les études que j'ai faites en communication à l'UQAM m'ont toujours servi également.
Parce qu'on dit de toi que tu es un excellent communicateur. Tu as donné des conférences même.
Oui, j'ai donné des centaines de conférences. J'ai fait ça pendant des années. En fait, j'étais entrepreneur à mon compte.
Wow.
J'ai donné des conférences dans les écoles, à l'intérieur de certains ministères, dans les entreprises privées. Donc, c'était vraiment très varié, avec un public très varié. Donc, ça aussi, ça a teinté mon parcours de communicateur. Puis c'est sûr que ça l'a aidé à faire de moi quelqu'un qui s'exprime de façon plus adéquate ou plus spécifique. Je pense que c'est important d'avoir les bons mots pour les bonnes circonstances. Puis surtout quand tu t'exprimes devant un groupe, c'est important d'être compris par la majorité des gens à qui tu t'adresses.
Eh oui, c'est un bel atout, mais je suis curieuse, quel était le message ou ton intention dans tes conférences?
C'était des conférences de type inspiration. En fait, j'allais là pour inspirer les gens. Puis j'avais créé un spectacle, notamment, que j'ai présenté dans plusieurs salles de spectacle, dont la salle Pierre Mercure, la salle André Mathieu, la Maison des Ondes à Laval, qui s'appelait Fou de la vie. Puis à l'intérieur de ce spectacle-là, je parlais de valeurs qui me sont chères, le dépassement de soi, l'authenticité, la passion, réaliser ses rêves. C'est des thématiques là, qui m'apparaissaient tout en utilisant mon handicap comme un atout, en riant de moi à certaines occasions. Puis je pense que ça faisait réagir les gens. Puis le fait que j'ai un handicap agissait un petit peu comme un catalyseur. Les gens, ils ne s'attendaient pas à me voir arriver sur scène et s'exprimer de cette façon-là.
Oui.
Donc, ça avait un impact encore plus grand sur le public.
Oui, parce qu'en fait, ça te permettait de briser les tabous parce que, on se le dit honnêtement, il y a encore énormément de tabous et de jugements face au handicap. Tu me parles de l'autodérision, de l'acceptation de soi, mais quand tu me parles de la discrimination au niveau même des emplois, je veux dire, c'est important, il faut en parler parce que, je veux dire, toi, tu l'as vécu personnellement. C'est quoi, en fait, les obstacles auxquels une personne handicapée vont se buter quand elle recherche un emploi? Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps?
Bien, je dirais que spontanément, même, il n'y a pas un employeur qui va dire qu'il est contre l'idée d'embaucher une personne en situation de handicap, mais dans les faits, sans nécessairement l'exprimer devant tout le monde, il y a encore beaucoup de craintes vis-à-vis les employeurs, vis-à-vis l'embauche des personnes en situation de handicap. Ça va-tu me coûter plus de CSST? Tu vas-tu devoir adapter tout mon bureau? Tu vas-tu devoir faire des choses différentes pour cet employé-là? Ça va-tu être démesuré? Elle va-tu être plus malade? Tout ça, oui. Toutes des choses qui ont été dites dans des études. Donc, ce n'est pas seulement moi qui le dis.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a beaucoup de biais conscients et inconscients vis-à-vis du handicap. Puis, c'est vrai en emploi, mais c'est vrai dans d'autres sphères de la vie, là, c'est certain. Là.
Ah oui, tout à fait. Mais parce que, en fait, les employeurs sont pas assez formés, je sais pas, ou sensibilisés. Ils connaissent pas, informés, oui, ils connaissent pas nécessairement les c'est ressources.
C'est en plein ça. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un CIT, qui est le contrat d'intégration au travail. Il y a différentes subventions qui peuvent être données pour adapter le bureau si nécessaire. Dans les faits, c'est pas vrai qu'on se blesse davantage. On est souvent des gens qui travaillons et qui sont très heureux de travailler, qui sont au bureau à chaque jour, des employés très vaillants. Donc, c'est tous des éléments, je pense qu'il faut en parler davantage parce que si on n'en parle pas, les biais, si tu veux, vont rester comme celle-là.
Oui.
Puis les gens, souvent, n'osent pas aborder ces sujets-là. Il y a comme une timidité peut-être mal placée. C'est difficile à exprimer, mais les gens n'osent pas aborder franchement le sujet. Moi, je dis souvent que lorsque j'ai l'impression que je me sens vraiment accepté, c'est à partir du moment où la personne en avant de moi va me demander qu'est-ce que j'ai exactement, quel type d'handicap j'ai. Puis à chaque fois, ça prend quand même un certain temps. Ce n'est pas des choses qu'on demande facilement,
non,
et spontanément.
Vrai.
Mais à un moment donné, il y a une relation qui se développe d'amitié, entre guillemets, ou professionnelle. Puis la personne va me dire, c'est quoi que tu as comme handicap, finalement, toi? Tu sais, ça va les aider à comprendre. Puis, ils vont dire, finalement, c'est pas si pire, puis ils se débrouillent bien. C'est comme ça que je vois ça.
Mais donc, ça prouve qu'en tant que personne handicapée, on doit malgré tout faire nos preuves et face à une personne qui, comme tu dis, non, ils ne peuvent pas savoir ou poser eux-mêmes un diagnostic sur notre situation physique. Mais ce que je trouve beau à travers dans ce que tu dis, c'est encore une fois la communication. On revient toujours à la communication. Mais je trouve ça beau s'il y a des employeurs qui nous entendent en ce moment. J'entends bien qu'un des conseils que tu donnes, Marc-André, c'est tout simplement poser la question d'un être humain à l'autre, quoi.
Exactement. Évidemment, il y a des façons de poser des questions pour que ça soit amené poliment. La plupart des gens sont en mesure de le faire. Puis moi, en tout cas, lorsqu'un employeur ou quelqu'un me demande ce que j'ai, ça me fait plaisir de lui répondre. Puis là, j'ai l'impression qu'une barrière vient de tomber. Là, on est rendu à un autre niveau.
Oui, je l'entends bien. Écoute, on en profite pour faire une petite pause. On réfléchit à tout ça, mais on se retrouve tout de suite après.
Parfait.
C'est une chanson qui nous ressemblait. Toi qui m'aimais, moi je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi moi qui t'aimais. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter songs. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall,
c'est la magnifique et talentueuse Charlotte Cardin qui a chanté « Les feuilles mortes ». On en voudrait plus, hein? C'était très court, mais Marc-André, j'imagine que c'est une chanson qui te fait du bien?
Oui, je l'aime beaucoup. En fait, je dois dire que je suis assez fan de Charlotte Cardin à la base, mais c'est une chanson qui m'émeut particulièrement.
Pourquoi?
Je pense que c'est le ton. Puis en fait, cette chanson-là est une reprise d'un chanteur français qui explique que le temps passe et tout ça. Donc, quand tu comprends bien les paroles, puis je dois dire aussi que j'ai un ami qui est décédé malheureusement, puis on a joué cette chanson-là, mais du chanteur français à ses funérailles. Puis évidemment, ça me fait penser à ça quand je l'entends.
Ah oui, oui, c'est sûr que... En fait, la notion du temps qui passe...
Oui.
Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que pour tout le monde, le temps passe. Mais pour toi, quel impact est-ce que ça a? Est-ce que c'est un lien avec ta vie, avec ton handicap, avec qu'est-ce que ça a impact sur toi quand tu penses au fameux temps qui passe?
J'ai jamais aimé l'idée que le temps passe. Ah. Malheureusement, il y a une fin à notre existence. Mm. Puis je pense que ce réflexe-là que j'ai m'emmener à être davantage passionné, à être plus intense, à être plus authentique dans ce que je fais. Parce que, évidemment, on y pense régulièrement que le temps passe, puis on en prend conscience. En tout cas, je vais parler pour moi. Mm-hmm. Puis c'est important dans ce cadre-là, pour moi, ben d'accomplir des choses, autant au niveau personnel que professionnel. Je trouve que sinon... À quoi sert le temps si ce n'est que de s'accomplir puis de devenir un meilleur être humain puis aider les autres à devenir meilleurs?
Que c'est beau! C'est tellement beau de t'entendre. Puis on parle des préjugés, mais tu sais qu'on dit que les hommes vont moins exprimer leurs émotions, mais on voit bien que tu as une très belle sensibilité aussi, Marc-André.
Bien, merci beaucoup. Oui, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, puis je l'assume pleinement, ça fait partie de moi.
C'est beau. Mais qu'est-ce qui te passionne? Parce que tu dis de t'accomplir dans la vie. T'es un homme passionné.
Oui, ben écoute, je pense que j'ai une grande passion qui reste la communication, puis m'exprimer devant des gens, puis de passer un message, d'inspirer des gens. Mais j'adore également... J'aime la politique, j'adore la politique, même, je dois le dire franchement.
OK. Donc, t'es servi en ce moment?
Oui, absolument. Bien, c'est pas un contexte idéal parce que moi, je m'impliquais beaucoup. En fait, j'allais dans les congrès de partis politiques et tout ça. Mais là, malheureusement, à cause de la pandémie, je peux pas le faire. Mm-hmm. Puis, dans mon travail également, je faisais du lobbyiste. Mais ça rend le lobby un peu plus difficile à cause de la pandémie.
Oui.
Puis évidemment, ça prend énormément de place dans l'actualité.
Mm-hmm. Et quand je te dis que t'es servi, t'as de quoi te mettre sous la dent au niveau de la politique, mais pour faire un jeu de mots, la cuisine aussi, c'est quelque chose que t'aimes particulièrement faire?
Oui, absolument. Ça me donne un peu plus de temps peut-être pour en faire. Mm-hmm. Mais j'ai toujours... Quand je cuisine... Je pense pas à autre chose, ça que ça me permet de déconnecter, de prendre une pause entre guillemets, parce que sinon je dois dire que je suis quelqu'un qui pense sans arrêt, qui est toujours en train de réfléchir. Fait que ça fait du bien des fois de faire autre chose, puis de se concentrer sur quelque chose qu'on aime, puis de pas penser à rien d'autre.
Quel plat est-ce que tu préfères cuisiner?
Moi, je vais avouer que j'aime beaucoup tout ce qui est cuisine française. J'aime beaucoup également les fruits de mer. Bon, c'est des éléments que je fais. Puis je suis très protéines, salade dans mes accompagnements. Donc, je suis moins féculent. J'aime beaucoup la salade grecque, notamment, que je cuisine régulièrement avec du citron, de l'huile d'olive et tout ça. Donc, c'est des éléments que j'aime cuisiner.
Mais là, tu nous donnes faim, Marc-André.
Ben, tant mieux, parce que c'est l'heure du dîner.
Oui, donc tu nous donnes des idées hein, pour nous, si on veut se faire un bon repas dans la journée. Mais je reviens à ta vie en général qui, comme tu l'as dit toi-même, est teintée aussi par ton vécu en lien avec ton handicap. Est-ce que tu as une anecdote ou des moments où tu t'es retrouvé dans une drôle de situation? Parce que ben, quand on est handicapé, on a plein d'obstacles et d'anecdotes qui nous arrivent.
Je dois dire que je me souviens pas ce que j'avais dit à ma pré-entrevue, mais... J'ai rien qui me vient en tête. Là.
OK, ben je vais te rafraîchir la mémoire alors. tu nous as parlé de en hiver, en fait. C'est un moment que tu dis que bon, été ou hiver, c'est pas toujours facile de te déplacer. Mais en hiver, un peu comme tout le monde, si je te parle de la glace, est-ce que ça t'inspire quelque chose?
Oui, écoute, c'est sûr que j'ai moins d'équilibre qu'un autre. Puis un matin, il y avait vraiment beaucoup de verglas, puis j'ai décidé d'aller au bureau quand même. Puis j'ai tombé plusieurs fois avant d'être capable de me rendre au bureau. Puis il y a beaucoup de gens qui ont fallu qu'ils m'aident à me tenir debout parce que c'était vraiment trop glissant pour me faire dire que finalement, j'aurais dû jamais venir. Puis c'est vrai que j'aurais pas dû sortir, mais là, un coup dehors, j'ai dit, ça sera pas si pire que ça, mais non, c'est... Finalement, il n'y a pas eu de mauvaise chute, heureusement, oui. Mais je peux vous dire que j'ai tombé au moins 10 à 15 fois, ça.
Quand même, hein?
Cette journée-là. Puis heureusement qu'il y avait des bons samaritains pour m'aider à m'enlever. Puis c'était tellement... Ben, il n'y avait pas juste moi qui tombais, il faut le dire. Même les gens qui n'ont pas d'handicap tombaient. Oui. Mais évidemment, peut-être un peu moins, puis bon, plus difficilement que moi, là, ça.
Est-ce que tu t'es trouvé un truc aujourd'hui? Parce que, je dis au fil du temps, moi aussi, qui ai une prothèse à la jambe, je compatis avec toi complètement. Mais est-ce que tu t'es trouvé des choses pour moins tomber?
Bien, évidemment, on s'organise pour mettre du sel l'hiver, mais je m'organise aussi toujours quand je sens que c'est glissant pour tenir le bras de quelqu'un puis marcher plus tranquillement. Là, c'est toujours un moyen où me tenir si j'ai la chance. Me tenir tout simplement, puis essayer de limiter mes pas. Donc, si j'ai à descendre l'escalier, mettre le véhicule le plus près des escaliers, des éléments comme ça. Là.
Alors, en fait, ça prouve à quel point tu es toujours en hyper-vigilance.
Effectivement, je suis en hyper-vigilance.
Et ça demande de l'énergie.
Oui, ça me demande une certaine énergie, mais... c'est parce qu'on le fait automatique, tu sais. Je veux dire, qu'il y ait de la glace, pour moi, quand je sors dehors, je regarde où je m'en vais, puis je regarde où je mets les pieds. Mm-hmm. Parce que n'importe quel petit obstacle peut me faire trébucher. Oui. Fait qu'il faut que je m'organise pour visualiser, finalement, ma destination. Mm-hmm. Puis, et la plupart du temps, je dirais, même en été, quand je vais faire une chute, parce que je chute pas tout le temps, c'est parce que je me suis mis à penser à autre chose, puis j'ai arrêté de me concentrer sur ça. Sur la marche que j'avais à faire, puis je suis parti dans des idées, mais ça fait que des fois, il y a un obstacle que tu n'as pas visualisé, puis ça te fait trébucher, là.
Mais ça, c'est la vie, hein? Parce que quand on tombe, quelle est la meilleure chose à faire quand on tombe, de toute façon?
Se relever.
Et voilà! C'est le discours d'un champion, puis encore une fois, c'est quelque chose que je connais aussi très bien, mais je trouve que c'est intéressant de toujours en parler puis de se le rappeler parce que tout le monde, comme tu dis, on a des obstacles dans notre vie, qu'on a un handicap ou pas. Alors voilà, quand on tombe, on se relève.
Puis c'était l'un des thèmes de ma conférence, puis je l'expliquais justement de cette façon-là. Quand on tombe dans la vie, qu'on ait une situation qui est plus malheureuse ou déplaisante, que ce soit physiquement ou émotionnellement, ben tu peux ne faire qu'une seule chose de constructif, c'est de te relever.
Et je t'amène ailleurs, Marc-André, niveau sentimental, est-ce que tu n'aurais pas un rêve que tu chéris à l'intérieur de toi, mais que, bon, tu ne parles pas nécessairement à tout le monde?
Non, effectivement, j'en parle peu. C'est sûr que je rêve d'avoir une conjointe, des enfants, une famille. C'est sûr que c'est un rêve qui est important pour moi. J'essaie de travailler pour que ça fonctionne. Mais ça, on en parle très peu souvent, mais je pense que lorsqu'on a un handicap, on a un défi supplémentaire au niveau relationnel, puis ça commence très jeune, en fait, que ce soit à l'école primaire ou secondaire. Là, quand je regarde le parcours amoureux que mon frère a eu versus moi, bon, c'est une toute autre chose, là, je veux dire.
Est-ce que ça a été difficile? Parce que quand tu parles de l'enfance et même l'adolescence, ben c'est dans ces moments-là qu'on tombe amoureux pour les premières fois.
Ben je pense que c'est les moments probablement les plus difficiles parce que il y avait inévitablement beaucoup de rejets vis-à-vis de moi en lien avec mon handicap. Là, je vous mentirais de dire le contraire. Fait que ça a été difficile d'avoir des relations. J'ai eu des conjointes, mais ça a été quand même plus difficile d'avoir des relations avec le sexe féminin pour ce qui est de mon cas.
Oui, je comprends. Ben, c'est comme tu dis, oui, ça, pour certains, c'est un obstacle quand on a un handicap, mais écoute, j'ai envie de te dire que ben, ta demande, elle est lancée et elle est entendue. Alors, si on a une auditrice hein, ou quelqu'un qui entend ça, ben, je te souhaite du fond du cœur, Marc-André, de trouver ta douce moitié.
Ben, je te remercie beaucoup.
Merci infiniment pour cette belle entrevue et bonne chance dans tous tes projets.
Merci à toi aussi. Bonne fin de journée.
À toi aussi, au plaisir. Et restez avec nous parce qu'après, on reçoit notre deuxième invitée, Karine Martin. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Et oui, Les Passions de Camille continuent parce qu'on n'en a jamais assez. Alors, je suis avec vous pour la prochaine demi-heure et toujours en compagnie. Je suis en compagnie de Karine Martin, une femme fort sympathique. Bonjour, ma chère Karine.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais très bien, merci. Et toi?
Oui, je vais bien. Alors, Karine, tu as 44 ans.
Oui.
Tu habites à Rosemère.
Exactement.
Et tu vas nous parler de plein de choses, mais on va commencer par le fameux syndrome de l'ataxie de Friedreich avec lequel tu vis.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est une maladie qui est quand même assez rare.
Oui. Beaucoup de personnes ont connu Claude Saint-Jean, mais suite à son décès, c'est pas très, très reconnu comme maladie. Moi, on m'a diagnostiqué, j'avais 19 ans. C'est génétique comme maladie. Ça l'atteint tous les nerfs. Fait que moi, c'est plus dans les jambes que ça l'atteint. Je suis considérée quand même une personne qui est pas atteinte beaucoup comparativement à beaucoup de gens parce que la plupart des gens l'ont dès l'âge de 10 ans. Okay. Moi, on me l'a diagnostiqué il y a 19 ans.
Oui, donc plus tard.
Oui. C'est sûr que ça prend un peu de temps. Ça, je devais souvent l'avoir quelques années auparavant.
Mm-hmm.
Mais je dirais que jusqu'à la naissance de mon fils, c'était à peine visible. C'était quelqu'un, un médecin qui pouvait dire « Ah oui, elle a un syndrome différent de la plupart des gens, mais sinon, les gens ne pouvaient pas voir ma différence. »
Donc, tu dis que c'est l'élément déclencheur de tes symptômes, ça a été ton accouchement.
Ben, ouais, des symptômes, oui. D'habitude, on est diagnostiqué suite à un élément déclencheur post-traumatique.
Okay.
Moi, j'ai eu un accident. Fait que c'est comme ça qu'on a dit. Puis on voyait, je ne remontais pas la pente rapidement.
Un accident de voiture?
Exactement. Fait que c'est là qu'on a fait des tests. Puis maintenant, on est arrivé à ça. Mais comme je vous dis, jusqu'à temps que j'ai eu mon garçon, moi, j'ai accouché à 28 ans, c'est à peine visible. Après la naissance de mon garçon, là, les symptômes se sont mis à apparaître plus fréquents.
D'accord.
Fait que là, on a vu que j'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère sur un fil de fer, j'avais moins d'extrémité dans les mains. Mais par contre, je suis quelqu'un qui est toujours capable d'écrire.
Mm-hmm.
Puis de manger, puis de bouger mes mains. Fait qu'il n'y a pas de problème.
Parce que c'est une maladie qui est dégénérative, mais donc tu me dis qu'à 44 ans, tu as quand même encore certaines capacités, malgré que ce soit une maladie dégénérative.
Oui. Moi, dans le fond, je suis en fauteuil roulant. Fait que c'est pas que je suis pas capable de me lever. Je me lève debout pour prendre la vaisselle dans le lavabo.
OK.
Mais j'ai besoin d'un appui parce que moi, je n'ai pas du tout d'équilibre. C'est comme tu dirais à quelqu'un, vous allez prendre un fil de fer et dorénavant, vous marchez là-dessus 24/24.
Mm.
Tout le monde va dire, je ne suis pas capable de faire ça. Ben moi, c'est pareil. C'est comme si je n'ai pas d'équilibre. Fait qu'un plancher normal, je ne suis pas capable. Mais je suis capable de me lever. J'ai assez de force. Si je me tiens debout, mais je dois m'accoder ou quelqu'un me tenir.
OK. Et est-ce que c'est... parce que par rapport pour en fait, une personne, sachant que c'est rare, qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu le syndrome d'ataxie de Fred Reich? Est-ce que c'est au niveau de la génétique, comment ça s'explique?
OK. Bien, si tes deux parents ne l'ont pas développé, chaque personne a un gène positif et un gène négatif de toutes les maladies qui existent. Si tes deux parents ne l'ont pas développé, ça veut dire qu'ils te transmettent les deux le gène soit positif ou négatif.
Okay.
Mais moi, dans mon cas, ma mère m'a transmis son gène négatif, mon père m'a transmis son gène négatif, fait que je l'ai développé.
D'accord.
Si ma mère m'aurait transmis, par exemple, un gène négatif, son père un positif, je serais porteuse, mais je ne le développerais pas. Alors moi, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, mon conjoint, il est pas le père de mon garçon, il a passé le test.
Okay.
Moi, c'est sûr, le gant développé, j'ai deux gènes négatifs, positifs, pardon.
Mm-hmm.
Lui a passé le test, il y avait deux gènes négatif. Fait que deux gènes négatifs et deux gènes positifs, ça fait 1-1.
Mm-hmm.
Ça veut dire que mon garçon est porteur, mais il ne la développera pas.
D'accord.
Ça veut dire que le jour qu'il veut des enfants,
oui.
Sa conjointe doit se faire tester parce que si elle est porteuse, ils ont des risques d'avoir un enfant qui a la maladie.
D'accord.
Si elle n'est pas porteuse du tout, il n'y a pas de problème.
C'est
C'est quand même complexe.
Oui, mais c'est parce qu'on... C'est vrai, on parle de la génétique, du corps humain, de la maladie, mais on est là pour, oui, en apprendre, mais je répète ce que je dis dans l'émission souvent, c'est bien beau de parler du handicap, mais il faut toujours se rappeler que, voilà, on est des personnes avant tout, et je veux dire, oui. Toi, c'est ton quotidien, c'est ta vie, oui. Donc on continue à avancer malgré notre handicap et notre différence.
Oui, puis je veux dire, on connaît pas autrement.
Ouais, voilà.
Fait que c'est pour tout le monde. Souvent, les personnes extérieures vont dire, oh, c'est pas le fun. Fait, moi, je connais pas autre chose. Fait qu'on s'adapte à ce qu'on a. Puis ça donne rien d'être négatif, ça l'enlèvera pas.
Effectivement. Et quand, sachant que c'est une maladie dégénérative, il doit y avoir beaucoup de deuil que tu as dû vivre jusqu'à maintenant.
Ça, c'est, je dirais, c'est la partie qui est la plus difficile parce que les deuils, c'est à continu. T'arrêtes de marcher, c'est un deuil. T'arrêtes de bien voir, c'est un deuil. Dextérité, tu peux pas écrire, c'est un deuil. Tu peux plus conduire, c'est un deuil. Puis c'est non-stop. Fait que c'est une acceptation qui est difficile parce que maintenant, t'as le goût de dire, OK, là, c'est passé. Puis je dis pas que les personnes qui ont eu un accident, c'est plus facile. Tu sais, il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Tu sais, comme je dis à beaucoup de gens, OK, oui, j'avoue que j'ai beaucoup d'œil, c'est dur. Par contre, moi, j'ai pu planifier mes retraites parce que je suis pas tombée du jour au lendemain en fauteuil roulant. Fait que oui, j'ai pu avoir une carrière, j'ai pu mettre de l'argent de côté, j'ai pu prévoir beaucoup de choses. Ben, je savais, oui, c'est plat, j'avais des deuils, mais je savais que ça viendrait. Je savais qu'un jour, je serais en fauteuil. Fait que j'ai acheté une maison plein pied. Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu peux prévoir. Fait que c'est pas, oui, c'est plat.
Oui.
Mais tu sais, il y a un côté quand même qui n'est pas super négatif. Là.
Non, mais c'est très beau. On développe un positivisme malgré l'adversité.
Oui.
Et quel est le métier que tu faisais avant de ne plus pouvoir travailler?
Moi, c'était chercher le projet dans une compagnie de construction.
OK.
Dans le fond, tu fais des études d'architecte pour être chargé de projet. La partie la plus dure, c'est qu'il faut être sur les chantiers. Fait que, une manière, il faut être roulant, c'est dur d'aller sur les chantiers.
Eh oui.
Puis le fait qu'une des grosses, je veux dire, qui atteint un handicap, c'est la fatigue. Beaucoup, beaucoup. Fait que le fait de travailler des heures incroyables, mais le moment donné, le corps, il suit plus, tu sais.
Donc, la fatigue, je veux dire, on y revient tellement souvent, mais peu importe le type de handicap, on fait des efforts surhumains. Et,
mais tu sais, je vais te dire de quoi par rapport à la fatigue. Il y en a beaucoup qui me disent ça, la fatigue, puis on dirait que moi, je suis comme ça. Tant que je ne vivais pas, je vais dire, ben voyons, ça ne peut pas être si pire que ça, tu vas te faire une couche.
Oui.
Mais quand tu es envahi par ça, là, c'est incroyable. Tu dis, le monde ne peut pas comprendre, tu sais. Mais il ne peut pas comprendre un fauteuil roulant non plus. Mais...
Non.
Mais tu sais, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la fatigue.
Je te comprends.
Parce qu'à un moment donné, tu veux l'énergie pour ton fils, pour ton mari, pour aller marcher, pour... Mais moi, je marche pas, là, mais tu sais, prendre une marche avec une famille. Mais là, tu n'as pas d'enracinement aujourd'hui. Je sais pas, j'ai fait taper, puis je suis brûlée, puis ça, ça aide là.
Mais ça demande à plus écouter son corps.
Exactement.
Et ton niveau d'autonomie aujourd'hui, comment tu le décris? Parce que, bon, tu nous parles de ta maison de plein pied. Est-ce que ta maison est adaptée?
Oui, elle a été adapté à toutes les étapes parce que moi, je rampais, Irène. Fait que, un moment donné, j'avais des rampes dans les couloirs parce que je marchais avec un chien Mira.
Okay.
là, je suis en fauteuil. Fait qu'on a enlevé les rampes. Tu sais, il y a beaucoup d'adaptations. Même la salle de bain, là, un moment donné, il n'y a pas de balle dessus. Maintenant, il y en a partout parce qu'il faut que je me tienne.
Mm-hmm.
Parce que quand je fais des transferts, mettons, soit à la toilette ou à la douche,
mm-hmm.
si je veux faire seul, ben, j'ai besoin des balles d'appui.
C'est sûr.
Oui. Puis mon auto aussi est adaptée.
De quelle façon?
Je conduis avec mes mains, moi. Parce que j'ai moins de sensibilité dans les pieds. Mais ce qui arrive bien, c'est que je vais donner du gaz, mais beaucoup trop.
Oui, non.
Le break, je breakais vraiment rapide. Je ne sentais pas la pédale adéquatement.
Mm-hmm. Donc, tout est manuel.
Oui, un cours, tu apprends à conduire avec tes mains.
Magnifique. Comme quoi, tout est possible. Hein?
Ben. Oui, puis on s'est arrêté, puis il m'a dit « Ah, oh, c'est magnifique! » Bien, il y a des choses qui sont positives là-dedans. Là.
Mais oui, tout à fait. Et je te propose, Karine, qu'on ait écouté une chanson que tu aimes particulièrement. Alors, j'ai hâte de t'entendre après.
Parfait.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
C'était Grand Corps Malade, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, avec sa belle voix grave, et c'est sa chanson « Sixième sens ». Karine Martin. Oh. Oui.
Tellement belle chanson.
Qu'est-ce que t'inspire, cette chanson?
Ben, j'aime beaucoup son histoire à lui. C'est sûr que c'est un accident.
Mm-hmm.
Mais c'est tellement vrai ce qu'il dit que c'est comme un monde parallèle à être handicapé. On vit des choses à l'intérieur que le monde ne peut pas comprendre. Puis ça prouve sa détermination est belle aussi, mm-hmm. parce que il ne s'est pas empêché de faire sienne dans la vie parce qu'il y a eu un accident.
Mm-hmm. Donc, c'est clairement un modèle d'inspiration pour toi.
Ah oui, vraiment.
Tu me parlais tout à l'heure de que ta maladie, oui, t'apporte des choses plus tristes, mais aussi des choses positives. Qu'est-ce que ça t'a amené?
Bien, je te dirais que comme plusieurs, la naissance de leur enfant, c'est très positif. Mais moi, le fait que mon garçon il ait vécu avec une mère handicapée depuis le jour qu'il est né,
mm-hmm.
il y a eu une grosse adaptation à faire. Et aujourd'hui, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est qu'il est très, très humain.
Mm.
Bon, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas. Mais dans la génération qui vient, il y a une différence. On est beaucoup dans une génération de moi, tu sais.
C'est vrai.
Puis, tu sais, exemple, ouvrir des portes, ils font ça, les jeunes.
Mm.
Puis, je ne parle pas contre eux autres, mais mon fils, il a appris. Si je ne peux pas rentrer, il ne m'aide pas. Fait que oui, c'est ma plus grande réussite de. D'y avoir montré ce côté-là d'humanité.
Mais c'est très beau et t'as tellement raison d'être fière parce que, je veux dire, un enfant, c'est une fierté pour tout le monde, mais quand tu le vois grandir avec cette belle sensibilité et empathie que tu lui as transmise, eh bien oui, c'est un plus pour ce jeune homme-là qui a 17 ans aujourd'hui.
Exactement.
Et puisque tu me parles de ton garçon, donc tu nous disais que tu n'es plus avec le père de ton fils...
Non.
Mais tu es...
Je suis mariée à un autre homme qui m'a connue, je te dirais, à peine quelques années avant le fauteuil roulant.
Mm-hmm.
Fait que lui, il connaissait très bien mon handicap et il me voyait. Puis on a développé, ça n'a pas été un coup de foudre, mais ça a été un apprentissage, développer l'amour. Et c'est comme ça... Il ne juge pas par ton physique. Il regarde vraiment beaucoup le côté mental. Puis j'ai vraiment un homme magnifique, là.
C'est beau de t'entendre.
Je suis heureuse et comblée.
Il n'y a rien de plus beau que d'entendre ça. Et est-ce que tu... J'allais te demander si, voilà, ton handicap peut être un frein à l'amour, mais donc clairement non. Mais non. Sinon, qu'est-ce qui te motive dans la vie ou quelles sont tes passions?
Je te dirais, au niveau des passions, j'ai toujours aimé beaucoup faire la cuisine.
Mm-hmm.
La cuisine, comme nos mères ou grand-mères, tu sais, je fais mon propre pain, mon propre yogourt. Mais j'ai découvert après... l'arrêt de travail, parce que pour moi, ça a été un deuil très difficile, pardon. J'ai découvert le canage.
Oh.
Et je pourrais vous dire, ma mère en faisait depuis des années. Et moi, j'ai plus que pogné la piqûre. je fais de tout. Puis j'adore ça parce que on mange bien. C'est très économique. Je peux me permettre souvent d'acheter bio parce que c'est beaucoup moins cher quand tu fais toi-même que tous tes repas qui sont préparés d'avant.
Mm-hmm.
Puis, oh non, j'adore ça.
Et c'est drôle parce que mon invité avant toi dans l'émission, lui aussi aimait particulièrement faire de la cuisine. Donc, vous avez clairement ce point-là en commun. Mais j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu mets dans ton canage pour nous donner l'eau à la bouche encore une fois?
Je peux faire autant sauce à spaghetti, ragoût, fili, ces choses-là. Mais je fais aussi une sauce barbecue, ketchup, moutarde. Je fais des confitures, je fais des marmelades, je fais des betteraves, je fais des ça. Je pense que ça va être plus facile de dire qu'est-ce que je fais pas versus qu'est-ce que je fais.
Bon, écoute, c'est clair. Mais en plus, dans un contexte comme aujourd'hui, il faut faire attention à ce que tu nous dis, Karine, parce que nous aussi, on sait que tu as beaucoup de nourriture chez toi. Ça peut nous donner envie de venir.
Mais c'est très, très pratique parce que ça nous permet de moins sortir.
Oui.
On a tout sous la main, là, fait que non, c'est vraiment une belle passion. Comme là, cette semaine, pour la première fois, j'ai fait du saumon.
Oh, que c'est bon,
puis
ça.
Je me disais, moi, je fais des pâtés au saumon, puis tout. Au lieu d'acheter du saumon en canne, j'achète du bon saumon bio. Puis...
Que tu remets en canne après?
Mais en pommasson.
OK,
là,
OK.
C'est pas des cannes de métal. Cannes de métal, c'est vraiment les commerces qui font ça.
Oui, oui.
Puis j'en fais comme. Bon. Une coupe de peau, puis c'est prêt pour quand je vais faire des pâtés au saumon.
Bon, ben écoute, ce soir, toute l'équipe, on va venir manger chez toi.
Parfait. Parfait.
Sinon, Karine, est-ce qu'il y a des moments où, j'aime bien parler d'anecdotes, est-ce que tu as déjà reçu certains commentaires qui ont pu un peu te choquer ou te faire réagir?
Oh, j'en ai reçu beaucoup, mais je te dirais qu'après tant d'années, c'est comme, tu dis, j'écoute pas puis je regarde pas parce que ça vient trop t'atteindre. Comme, okay. Je me rappelle mon mari quand on a commencé à se regarder, il nous regarde, il dit, oh, c'est plate, mais il faut se fermer les yeux parce que sinon, ça vient nous chercher.
Mm-hmm.
Mais tu sais, je te dirais que quand je marchais, mais c'était sensiblement comme si quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool.
Mm-hmm.
Mais je l'ai allé ici avec mon garçon qui était très petit.
Mm-hmm.
Puis j'entendais beaucoup de monde dire, ah oh, ben c'est dégueulasse, la saoule qui m'a fait aller ici avec un petit bébé.
Mm-hmm.
Je n'étais pas sûre pantoute. Mais où, ouais. Des fois, le monde disait, ben là, madame, vous ne pouvez pas conduire. Pourquoi je peux pas conduire? Oui, j'ai pas mes jambes, mais j'ai mes yeux, puis j'ai d'autres choses. Fait que des commentaires, je te dirais. Puis le pire, là, c'est les personnes plus âgées souvent qui passent des commentaires.
Mm-hmm. Elles se retiennent peut-être moins, elles sont plus spontanées, elles ont moins de filtres.
Oui, mais tu sais, je veux dire, il faut juste... Faut pas se laisser atteindre par ça, parce que tu peux pas connaître tout dans la vie.
Non.
Fait que moi, je me dis, gars, la personne, elle a un petit côté ignorant, puis je sais pas la juger pour ça. Là, tu sais, je vois rien qu'expliquer. Par contre, si un enfant vient voir que lui, il a zéro fil, puis qu'il me dit, pourquoi tu marches pas?
Mm-hmm.
Mais ça va faire plaisir de lui expliquer, nous.
Ben oui. Les enfants ont droit d'être curieux.
Oui, exactement.
Et est-ce que tu acceptes l'aide des gens? Parce que j'imagine que là, sachant que tu es maintenant en fauteuil roulant, est-ce que ça t'arrive souvent que des personnes te proposent de t'ouvrir la porte ou de t'aider?
Ben, je dirais que oui. Puis oui, 3-4 ans, j'accepte. Comme si tu vas à l'épicerie, puis c'est sur l'étage en haut, puis je l'atteins pas, mais c'est moi qui vais demander de l'aide au passant. Excuse-moi, c'est possible de me donner ça? Puis le monde le fait vraiment aisément. Mais par contre, si ouvrir une porte, ben le monde m'a dit, désolé, est-ce que vous voulez de l'aide?
Mm-hmm.
Puis là, je vais dire, ah oui, c'est très gentil, tu sais. Puis souvent, je vais me faire dire, ah, mais on ne sait pas si on devrait... Il y en a beaucoup qui acceptent pas. Puis là, je fais comme... Voyons, les personnes handicapées. J'ai jamais vu quelqu'un, moi, qui dit « Non, je vais me rassurer utile. » Tu sais, ou si moi, je suis capable. Parce que souvent, ils vont dire, mettons, « Je peux vous aider, mais si je suis vraiment capable, si je vais en peser un piton, je vais dire « Très gentil de m'aider, de vous offrir, mais j'ai rien que ça à faire, je vais le faire tout seul. »
Mais j'aime que tu dis ça parce que c'est vrai que quand les gens ne savent pas trop de quelle façon ils peuvent nous aider, ils ont peur de nous blesser alors que leur élan envers nous part d'une bonne intention. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand quelqu'un nous pose la question, c'est vrai que c'est de notre choix de répondre oui ou non et il faut surtout pas que la personne en fait le prenne personnel si on refuse son aide.
Exactement. ce que je suis capable de comprendre, c'est que tout, il y en a plein d'handicaps sur la Terre. Mm-hmm. Puis le monde ne peut pas tous les connaître, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pour nous aider.
Mm-hmm.
Fait que c'est à nous à les sensibiliser puis expliquer correctement qu'est-ce que... Ou tu sais, des fois, je vais dire, c'est super gentil de vous offrir, mais je vais essayer de faire ça parce qu'au moins, je fais travailler mes muscles.
Mm-hmm.
Puis cette étape est très bonne pour moi.
Exactement.
Mais si on ne l'explique pas, ils ne peuvent pas deviner, ils ne sont pas écrits sur notre front. Là.
C'est vrai. Mais on revient encore à la même chose. La communication, c'est oui, la
exactement.
Clé.
Exactement. Exactement.
Écoute, Karine, Martin, merci infiniment pour cette belle entrevue. Ça nous a fait plaisir d'apprendre à te connaître et de plonger dans ton bel univers très coloré.
Oh, vous êtes très gentille.
Au plaisir, ma chère.
Merci beaucoup, Camille. Passe une belle journée.
Merci à toi aussi.
Bye bye.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre toujours à chaque fois. Merci à mon équipe de Les Passions de Camille, Mathieu Tessier, Claire Guérin, Jean-Sébastien Laliberté. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde.